Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, on se retrouve exceptionnellement, mais voilà, ça va être comme ça pendant tout l'hiver pour Mélève et Malka, notre belle émission du samedi, du Shabbat, a quitté le vendredi et elle s'installe donc désormais le samedi soir à 19h durant tout l'hiver. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Bonsoir Ravéli Lemel, Shavuatov.
Shavuatov.
Alors on a décidé, mais évidemment c'est vous les rabbanim qui décidez, c'est pas moi, que, mais vous, on fait comme ça tous les ans, donc je suis pas surpris. On fait Chaye Sarah quand même pour faire, pour pas perdre cette très belle paracha, qui d'ailleurs est liée tout à fait à l'actualité. Là c'est le journaliste qui parle, puisque c'est lié à Hevron, à la Marpella, au lien d'Israël avec sa terre. Et quelle terre, puisqu'il s'agit de Hevron. Mais vous voulez intervenir sur quelque chose qui pourrait aussi être lié à l'actualité, mais je crois pas que vous allez... le prendre sous cet angle-là. Vous voulez, je ne sais pas, hein, je ne parle pas à votre place, vous voulez intervenir ce soir sur le mariage d'Yitzhak et pourquoi il faut absolument, on lui dit, il ne faut surtout pas, c'est pas lui qu'on dit ça, mais celui qui doit aller chercher son épouse, surtout pas une femme de Canaan. Pourquoi ? Pourquoi on dit ça, Eliezer Ravéli Lemel ?
Exact, on est donc dans cette paracha dans laquelle on va assister au mariage de Yitzhak avec Rivka, la rencontre et au mariage. Et on se rappelle que c'est Abraham qui va déléguer celui qui est son intendant, on dirait aujourd'hui, Eliezer dont on dit qu'il est dolé ou mashkemitorat rabolacherim, c'est celui qui a puisé et qui a abreuvé la Torah de son maître aux autres. Donc c'est vraiment quelqu'un en qui il a une totale confiance. Il va lui faire quand même un serment. Il va être extrêmement clair en lui disant, qu'on soit bien clair, « Lotika risha nivni mibnot aknani acharni yoshev bekirbo ki melarti » C'est-à-dire, on est bien clair, tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan chez qui j'habite, si ce n'est vers la terre d'où je viens, va plus vers la terre dans laquelle j'ai grandi. Alors, a priori, il aurait très bien pu lui dire, bon, non, tu vas là-bas. Donc si tu dois aller là-bas, c'est que tu ne dois pas aller ici. Or là, il y a une forme d'insistance très claire sur les filles de Canaan, il est hors de question. Et pourquoi au fond, si c'est une problématique d'idolâtrie, il y a de l'idolâtrie un petit peu partout dans le monde à cette époque, donc Eliezer sait très bien qu'il ne va pas prendre une femme qui aurait des pratiques idolâtres, mais il y a peut-être autre chose qui se joue ici et qui rend impossible l'union d'une femme de Canaan avec Yitzhak. Alors, pour mieux comprendre cela, on va tout simplement voir comment on parle de Canaan dans nos textes. Il y a un verset qui nous dit la chose suivante dans le Tanakh, qui nous dit « Canaan mosne mirma ». Traduction, Canaan, mosne mirma, c'est la balance trafiquée. Quand je parle de balance, c'est donc cette balance avec laquelle on pèse ce que l'on achète. Et Canaan, c'est une balance trafiquée. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre à propos de Canaan en nous disant cela ? Alors, si on réfléchit, on sait très bien que la Torah donne une importance fondamentale à l'éthique et à la manière dont on se comporte dans la relation à l'autre. Et pour la Torah, être vigilant dans la relation à l'autre, c'est capital. Vous savez que actuellement, justement, on va faire un petit détour par l'actualité, on dit tous les jours un certain nombre de psaumes, et puis à la fin de ces psaumes, on dit « Achenu kol bet Israël, nos frères et sœurs, évidemment, enfants d'Israël qui sont dans la souffrance, qui sont bachivia, qui sont aussi prisonniers, que Dieu ait pitié. » Ce qui est très intéressant, c'est que dans la tradition ashkénaze, les lundis et jeudis, on dit ce texte, mais juste avant, on dit « que ça soit un effet de ta volonté, Dieu, que ceci, ceci, cela », on dit d'autres choses, mais en demandant en premier lieu que ça soit un effet de ta volonté. Comme on s'adresse d'abord à Dieu, on dit « Dieu, s'il te plaît ». Et là, on ne dit pas « Dieu, s'il te plaît ». On dit « nos frères », mais pourquoi on ne dit pas « Dieu, s'il te plaît » ? Démètre nous dit parce que si on est capable de se rappeler qu'on est frère et qu'on le vit pleinement, on n'a pas besoin de dire à Dieu « Je t'en prie Dieu », parce que c'est évident que Dieu ne peut être qu'à l'écoute d'une parole qui provient de ceux qui ont décidé d'être vraiment frères et proches. Et donc, c'est la raison pour laquelle, entre autres, la Torah voit d'un très très mauvais œil le vol. Le vol, c'est quelque chose que la Torah réprouve très fortement. Il y a plein de sortes de vols. Il y a le voler du temps, il y a voler l'esprit des gens, il y a voler le sommeil, il y a aussi voler l'argent. Et c'est quelque chose voilà, qu'on doit mettre de côté, voler l'autre. C'est au fond prendre une partie de ce dont il a besoin pour construire son histoire. Mais imaginons voilà, que demain vous voyez quelqu'un qui vole. Il vole, il est rentré, il a volé un truc. Alors cette personne, si après vous allez l'interviewer, il va peut-être trouver toute forme de justification. Il va dire « oui, mais l'autre il en a plein, moi j'en ai pas, les objets appartiennent à ceux qui en ont besoin, il s'en rendra pas compte et de toute façon, riche comme il est, ça ne lui changera rien ». Chacun peut trouver ses théories pour justifier cet acte délictueux. Mais si vous demandez à la personne « mais on est d'accord que tu as volé ?» Il dit « oui, oui, j'ai volé, mais bon, mais c'est pas si grave, mais il est d'accord, tu as volé, tu t'es approprié quelque chose qui n'était pas à toi ». Ce qui veut dire que cette personne, un jour, risque, et on le lui souhaite, de faire tchouva, de faire repentance, de se dire, mais au fond, mais qu'est-ce que j'ai fait, ça ne se fait pas, de réparer, de rendre, et d'avoir une autre vie. Mais quand vous avez une balance trafiquée, vous savez que la Torah nous demande d'être très très vigilants dans le domaine des poids et mesures. Elle nous demande de vérifier qu'ils soient totalement exacts. Elle insiste très fortement là-dessus, parce que essayons d'imaginer que demain, une personne trafique sa balance. Alors, elle est au marché, et ce n'est pas vraiment un kilo, c'est 940, 960 grammes. Au fond, la personne qui est en face, le client, n'aura jamais l'idée qu'il a pu être volé. Pourquoi ? Parce que 50 grammes. Et voire même la personne qui a justement trafiqué sa balance oubliera qu'elle vole. D'abord parce que parfois, elle va faire bon poids, elle sera persuadée qu'elle en donne plus, alors qu'elle donne juste ce qu'elle aurait dû donner. Et puis la plupart du temps, non, elle en donne un peu moins. Seulement, comme ce n'est pas énorme, comme c'est un système qui a été mis en place, comme il y a transaction, eh bien au bout d'un moment, vous lui demandez « est-ce que tu voles au quotidien ?» Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Et c'est ça le problème de Canaan. Canaan, au fond, c'est un système dans lequel l'individu se donne les moyens de ne pas réaliser qu'il est dysfonctionnel. C'est quelqu'un qui, au fond, crée un système dans lequel, eh bien, il n'a même pas la possibilité de se transformer parce qu'il ne voit pas ce qui devrait être transformé, parce qu'il a construit son système de telle manière à ne pas être interpellé par ses actes. Pourquoi ? Parce qu'il a l'impression qu'il ne fait rien de mal, alors qu'en vérité, il vole, et ça, il l'oublie totalement. Abraham dit à Eliezer, on ne peut pas construire une histoire, ni de couple, et encore moins une histoire du peuple d'Israël avec un modèle de fonctionnement de ce type. Ce n'est pas possible, parce que lorsqu'une personne fait en telle sorte de ne pas réaliser qu'à un moment, il y aurait des choses chez elle à changer, lorsqu'une personne se donne les moyens de ne pas voir quels sont ses dysfonctionnements, eh bien, plus rien ne pourrait avancer. Rien ne peut véritablement se construire parce qu'elle restera statique dans son système. Et c'est l'antithèse même de ce que propose le peuple juif à l'individu qui doit être dans une démarche de tension vers la perfection de manière constante, aussi bien dans le travail sur les éléments positifs de l'existence, se raffiner dans le don, dans l'écoute, dans la sensibilité, que par rapport aux points qui ne vont pas. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le préambule au fond du mariage de Yitzhak. Le préambule du mariage de Yitzhak, c'est justement rappeler que c'est autour de cette capacité de dire « j'ai eu tort, je ne fonctionne peut-être pas nécessairement comme je devrais le faire » qu'on va pouvoir construire quelque chose de positif. D'ailleurs, j'aime bien dire que la phrase sans doute la plus importante dans une relation de couple, c'est pas « je t'aime », même s'il faut le dire évidemment, mais être capable de dire « j'ai eu tort », c'est-à-dire accepter qu'il y a chez nous quelque chose qui ne va pas parfaitement et sur lequel il y a lieu de changer. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le point d'entrée. Et puis après, Eliezer donc va partir pour chercher cette épouse, parce que maintenant, il faut savoir qui est-ce, et il va y avoir ici un deuxième élément, mais qui s'inscrit parfaitement dans ce qu'on vient de voir. Eliezer va dire à Dieu, voilà, si la jeune fille à qui je demande à boire me donne à boire à moi, et après elle me propose de donner à boire au chameau, alors c'est sans doute elle, évidemment, qui va être la conjointe d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Parce que c'est juste comme ça un truc. Au fond, si on réfléchit un instant, du côté de Rebecca, l'attitude de Eliezer qui va lui demander à boire est a priori incompréhensible. Parce que cet homme, a priori, n'a pas besoin d'elle pour boire. Surtout qu'il a ses côtés, ses chameaux, ses chameliers, donc même s'il ne veut pas se servir à boire, mais il a du monde à ses côtés. Rebecca, ici, pourrait dire mais je ne comprends pas sa demande, qui est complètement acceptable. Si la demande était inacceptable, évidemment, elle répond non, mais c'est acceptable, peux-tu me servir à boire ? Rebecca dit, c'est pas parce que je ne comprends pas que je ne vais pas répondre à sa demande. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Pour une raison que j'ignore, cet homme ne peut peut-être pas se servir à boire. Peut-être qu'il ne peut pas demander aux gens qui sont à ses côtés. Pourquoi ? J'en sais rien. Et comme au fond, la demande est acceptable, eh bien, je réponds oui, mais elle va beaucoup plus loin. Elle dit donc, cet homme-là, s'il ne peut pas se servir à boire lui-même, eh bien, il ne pourra évidemment pas donner à boire à ses chameaux. Donc les chameaux vont avoir besoin de boire, mais comment va-t-il faire ? Ah, il ne me le demande pas. Peut-être qu'il se sent un peu honteux. Peut-être qu'au fond, déjà pour demander pour lui, ça n'a pas été simple. Alors il ne se voit pas me demander de faire cet effort pour les chameaux. Alors à moi de le lui proposer. À ce moment-là, Eliezer dit, Aïcha, voilà la possibilité du couple. Lorsque, en effet, eh bien, la personne qui est en face de nous, et ce qui est extraordinaire, c'est quand les deux sont dans la même perspective, eh bien, n'essaye pas sans arrêt de comprendre l'autre, mais essaye d'abord de savoir l'autre. Essaye de savoir, au fond, comment l'autre fonctionne, quels sont ses besoins, et même s'il y a quelque chose que je ne comprends pas totalement à un moment dans sa demande, dans la mesure, et j'insiste évidemment là-dessus, où elle est acceptable, eh bien, au fond, pourquoi ne pas décider d'y répondre positivement et à partir de cela, même aller un peu plus loin. Essayer de découvrir ce que l'autre aurait besoin de dire à travers les éventuels besoins qui sont les siens, mais qu'il n'ose ou qu'il ne peut pas dire. Vous savez, être capable de comprendre que parfois l'autre ne peut pas dire les choses parce qu'il n'y arrive pas. Mais réussir par soi-même à les découvrir, c'est l'expression véritablement de l'amour qu'on est censé se prodiguer à l'intérieur d'un couple et de manière beaucoup plus vaste à l'intérieur d'une société. Donc on voit ici, et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter, deux éléments forts. Le premier, c'est qu'il y a une impossibilité totale de construire une histoire pérenne dans un monde dans lequel je ne suis pas prêt à un moment découvrir ce qui ne va pas chez moi et ce que je devrais pas faire. On peut construire une histoire dès lors qu'on accepte de rentrer un tout petit peu dans le système de l'autre, d'essayer de rentrer dans sa grille de lecture, d'être capable de répondre et surtout d'être capable d'imaginer la parole qui n'a pas pu être exprimée, mais qui est peut-être quand même là, et d'être capable aussi d'y répondre. Voilà quelques axes sur lesquels on peut très concrètement travailler et que la Torah nous propose à travers ce texte.
Et d'ailleurs, vous nous aviez enseigné auparavant que c'est le même Abraham qui disait à Lot, « Ah bon, d'accord, on se dispute, moi je vais de ce côté, moi je vais, toi tu vas de celui-là, parce qu'il a des limites comme ça, où vraiment il y a des choses que... Bah, c'est quelqu'un qui s'est décidé, Abraham. » Comment vous avez dit, Rav Eli Lemel, ceux qui sont tellement unis... Ils n'ont pas besoin de dire, j'ose pas dire s'il te plaît à Dieu, c'est ça que vous avez dit ?
Oui. Oui. C'est-à-dire, ça, c'était cette petite parenthèse que je me suis permis de faire.
Mais parce que
quand
vous l'avez fait exprès.
Demande à Dieu.
Vous savez pourquoi je vous pose la question ? Oui. Vous l'avez fait exprès. Mais alors, vous voyez bien que c'est ce que vous avez fait vous-même, c'est le journaliste qui parle, vous avez fait vous-même le lien avec l'actualité. Vous avez vu que. Hein, quand le peuple d'Israël est tellement uni que, ben, comme par hasard, les portes, elles s'ouvrent. Après le désastre. Le désastre, malheureusement, il est derrière nous. Mais après le désastre, on est tellement unis que toutes les portes s'ouvrent, non ?
Exact. Exact. C'est sûr et certain que cette union du clan d'Israël, elle est véritablement au centre même de notre identité, parce que c'est comme cela seulement qu'on peut faire avancer l'histoire. Ce qu'il faut, c'est décider d'être unis et de ne pas se retrouver à être obligé d'être unis, mais si on y est obligé et qu'on y arrive quand même, c'est déjà exceptionnel, pour pouvoir mieux par la suite décider de l'être de manière permanente.
Rav Eli Lemel, merci. Shavua Tov. On n'oublie pas qu'on avait décidé il y a un petit mois de ça, qu'on profite là pendant tous ces événements qui sont très douloureux pour nous tous, de créer du lien. Et donc chacun à sa manière va rendre visite à quelqu'un, appelle quelqu'un qui est en Israël. Je vous remercie. Et donc voilà, notre émission... Kabbalat Shabbat devient Melave Malka à partir d'aujourd'hui pour toute la période de l'hiver, en raison évidemment des horaires. Eh bien, Shavua Tov, Rav Lemel.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai et Shavua Tov. Rav Mordechai Biton, vous voulez... Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que Ishmael, c'est un archer, c'est un homme qui utilise des flèches. Et bon, un petit peu un lien avec l'actualité.
Et je voudrais ici adresser une prière, une tefila à Hachem, pour qu'il protège tout son peuple, partout où il est, mais qu'il protège aussi toutes les démocraties et tous les gens de bien et toutes les bonnes âmes et tous les gens courageux qui ont compris que ce livre aujourd'hui, une guerre dans laquelle l'ennemi nous a désignés, l'islamisme radical, l'islamisme conquérant nous a désignés comme ennemis en Israël, mais en fait il a désigné le peuple juif, mais il a désigné toute l'humanité qui ne veut pas se plier à cet islam radical comme ennemi, alors que Dieu protège son peuple et que Dieu protège tous les hommes et toutes les femmes de bien et tous les démocrates et tous les gens esprits de liberté. Alors, effectivement, dans la paracha, il y a un phénomène qui est très intéressant et qui est relié à l'actualité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit du Proche-Orient. Pendant des années, le Hamas a tiré des roquettes. Il a semé la terreur dans la population avec des roquettes. La même chose pour le Hezbollah, des roquettes. La même chose pour les Iraniens. Les Iraniens tirent, se préparent à créer des programmes de missiles balistiques. La même chose pour les Yéménites. Les Yéménites nous envoient de quelques centaines de kilomètres du sud d'Israël vers Israël des missiles. Il semble qu'il y ait dans la guerre qu'entreprend Ishmael avec Israël un élément qui est un élément tactique, stratégique, militaire fondamental, qui est l'élément des roquettes, des missiles, pour attaquer de loin. Comme si, en quelque sorte, c'était, selon eux, finalement, la meilleure manière d'attaquer Israël, d'affaiblir Israël. Alors c'est un phénomène qui est très intéressant parce que figurez-vous qu'il est exploré donc au sujet de Ishmael. Dans la paracha de Vayera la semaine dernière, et on va voir également la résonance que ça peut avoir dans notre paracha ici, Chaye Sara. La paracha de la semaine vous racontait que Sarah a vu le fils de Hagar qui jouait avec Yitzhak. En fait, il jouait à quoi ? Il jouait avec une flèche. Il lui avait mis une pomme sur la tête et il lui disait « je vais tirer, je vais donc dégommer la pomme qui est au-dessus de ta tête ». Et en fait, elle a compris qu'il voulait le tuer avec un arc et avec une flèche. Alors il va être renvoyé, Ishmael va être renvoyé, hein, il est congédié, et donc il va se retrouver dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il devient dans le désert ? Il devient un archer. La Torah le dit, il devient un archer. Et le Midrash, le Pirkei des Rabbi Eliezer, au début du 30e chapitre, dit « Ishmael est né avec un arc et il s'est déployé dans l'histoire, entre guillemets, ça c'est moi qui ajoute, il s'est déployé, il a eu sa force en quelque sorte par l'arc, par tirer des flèches, d'accord ? Pourquoi ? Parce que la Torah dit, Vayir Rove Keshet, il a été un archer. Et donc le Midrash continue en racontant que Yitzhak une fois était assis donc seul et Ishmael a tiré sur lui une flèche pour le tuer. La Torah ne raconte pas des histoires. La Torah nous raconte l'essence des choses. Lorsqu'elle nous dit que Ishmael, quand il fait la guerre, lorsqu'il veut tuer, utilise des flèches, c'est parce que ça correspond à quelque chose qui est essentiel chez lui. Je rappelle également que lorsque Hagar va se retrouver dans le désert et qu'à un moment donné, elle assiste à la mort possible de son fils, elle va s'éloigner de lui à la distance d'un tir de flèche, nous dit la Torah. Alors c'est quoi cette flèche que Ishmael tire ? C'est quoi cette guerre à distance que Ishmael tire ? Il faut y voir ici tout simplement l'expression d'une certaine sauvagerie. C'est-à-dire que la meilleure manière de ne pas être atteint, d'atteindre l'autre, est de lui faire peur et de lui donner le sentiment que finalement on est insaisissable. Donc à la fois de lui faire peur, en même temps de semer le trouble, et en même temps de semer une espèce de désespoir. On n'y arrivera pas, on ne peut pas y arriver. C'est de tirer des flèches de loin et ensuite d'aller se cacher. Et je vais vous rapporter une anecdote extraordinaire qui a été rapporté par des élèves du Hafetz Chaim. On a raconté au Hafetz Chaim que lors des guerres entre les Russes et les Ottomans, dans les combats frontaux, les Ottomans étaient toujours défaits, ils perdaient. Mais par contre, lorsque les archers ottomans tiraient, ils arrivaient à semer la panique, la trouble, dans les troupes russes. Et le Hafetz Chaim a répondu, il a dit, mais évidemment, c'est inscrit dans la Torah, et c'est inscrit ici dans le Midrash, sur les versets en rapport avec la paracha de la semaine dernière, mais on va revenir sur la paracha de cette semaine pour comprendre un peu ce qu'on peut faire de tout ça, c'est que c'est l'essence d'Ishmaël, c'est de faire la guerre de cette manière, parce que c'est la manière la plus sauvage et la plus sadique de faire la guerre. On se met à distance, on provoque, on tue, on provoque le désarroi chez l'adversaire, mais on reste caché et on tue de manière indistincte. En tuant de manière indistincte, on sème la terreur. Mais il y a un élément qui est un élément fondamental. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on doit répondre à ce genre d'attaque? Alors, dans l'histoire d'Israël, on a toujours, depuis la sortie d'Égypte où le peuple de Amalek vient nous attaquer, on a toujours levé des soldats pour aller se battre, et donc on a toujours fait la guerre avec l'art de la guerre. Nous aussi, on a eu des archers, on a eu des troupes, et puis aujourd'hui, on a une armée qui tire et qui se défend, et qui défend le pays. Oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus. Pourquoi on a ici des projectiles qui sont envoyés de terre, qui passent par le ciel et qui nous tombent dessus? Et nos sages nous disent, la galoute d'Ishmaël, l'exil de Ishmaël, l'affrontement avec Ishmaël, il y a quelque chose de très particulier. Les quatre empires qui ont dominé le peuple juif sont des empires qui ont dépouillé Israël de sa royauté. L'empire babylonien, l'empire mède, l'empire grec, l'empire romain sont des empires qui ont dépouillé Israël de sa royauté. Ishmaël est un empire qui va s'attaquer au peuple juif et qui, lui, n'a pas enlevé au peuple juif sa royauté. L'empire babylonien, avec Nabucodonosor, a détruit le temple. L'empire mède a maintenu les juifs en exil et ne leur a pas permis de reconstruire le temple. C'est après, à la fin, l'empire perse qui l'a permis de le faire. L'empire grec a occupé Israël et empêché les juifs d'exprimer à la fois leur spiritualité et leur maîtrise sur la terre, leur propriété sur la terre et en même temps leur royauté. L'empire romain a détruit le temple et a exilé Israël. Donc ces temples, ces exils-là, qui sont les quatre grands exils, nous disent nos sages, par lesquels Israël doit passer, sont des exils qui ont privé Israël de sa royauté. Mais Ishmaël, lui, n'a pas privé Israël de sa royauté. Sa force, elle vient du fait qu'il a le nom de Dieu dans son nom, Ishmaël. Dieu écoute. Qu'est-ce qui va écouter Dieu? La prière des Juifs, nous dit le Midrash, qui vont être oppressés par quoi? Par les flèches de Ishmaël. Pourquoi? Parce que ces flèches, ces missiles, ils partent de terre, mais ils passent par le ciel et ils nous tombent dessus. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On lève les yeux au ciel. Alors c'est vrai, on a un dôme de fer. C'est vrai qu'on a une armée. Mais tout le monde comprend que ça ne suffit pas. Et c'est la raison pour laquelle, le lien avec la paracha, je vais l'établir maintenant, le remède contre Ishmaël, c'est bien sûr de se battre. Bien entendu qu'il faut se battre. Et il est tout à fait clair que le peuple juif, tout au long de son histoire, s'est battu. Mais il doit se battre avec la composante militaire, mais avec une composante fondamentale qui est la composante de la émouna, la composante de la foi. Priez Hachem. Regardez aujourd'hui dans l'armée d'Israël le nombre de soldats qui demandent des talits de katane, qui veulent mettre les tefilines, qui font des mises autres. Regardez tous ces juifs, anciennement laïcs, qui aujourd'hui disent « Dieu a fait des miracles, nous avons vu des miracles ». Le peuple juif lève les yeux vers le ciel. Il lève les yeux vers le ciel et le Dieu de la vie est appelé à nous aider pour nous laisser en vie et pour faire disparaître les mortifères et les barbares amoureux de la mort qui sont en face de nous. Et la fin de la parashat Chayé Sarah nous dit que, à la fin des temps, avant l'ère messianique, Ishmaël tombera. Et lorsqu'Ishmaël va tomber, le Messie, le Mashiach, qui est le descendant de Yitzhak, va se lever. Alors c'est très étonnant parce que le Messie, le Mashiach, dans la tradition juive, il vient de David. Et donc il vient de la tribu de Yehuda. Alors, si les gens voudraient l'attribuer au patriarche du peuple juif, on devrait plutôt l'attribuer à Avraham Avinu. Pourquoi Yitzhak? Alors, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais je le redis ici parce que c'est le moment de le dire. Yitzhak, il a été le premier juif à tendre son cou à un couteau, c'est la ligature d'Yitzhak, sans avoir sur le dos un communiste, sans avoir sur le dos un nazi, un croisé, et que sais-je encore, mahométan fanatique. Qu'est-ce que Avraham et Yitzhak ont ancré dans le peuple juif à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont confirmé comme ancrage? Ils ont confirmé l'ancrage de Ur Kasdim, qui était la première épreuve d'Avraham Avinu. Il a été jeté dans une fournaise parce qu'il refusait de se prosterner devant une idole. Le peuple juif a en lui une Messirut Nefesh, une abnégation absolue pour le Dieu de la vie. Le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui a donné la Torah, le Dieu qui nous a donné une mission universelle. Faire savoir qu'il y a une spiritualité, un Dieu qui a créé le monde et qui le gère, et porter dans le monde l'amour de la vie, l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah, voilà ce que la mission qu'on nous a donnée ici dans le monde. Yitzhak a été le premier à faire preuve d'une abnégation totale, totale, donc d'une émouna, d'une foi absolue, d'une confiance absolue en Hachem. Et c'est la raison pour laquelle tous les matins, lorsque nous commençons la prière, nous commençons par lire le texte qui raconte la ligature d'Yitzhak, la Akedat Yitzhak. Parce qu'il y a dedans un message. C'est ce type de émouna absolue en Hachem qui va nous sauver de cette fausse émouna, de cette fausse foi d'Ishmaël, qui tirent des flèches pour terroriser et pour essayer de nous mettre la panique. Nous avons une armée, nous allons nous défendre, mais nous avons aussi, ce qui est encore plus important, peut-être plus important, une émouna, une foi absolue dans le Dieu de la vie et dans la vie, et c'est pour ça que nous allons gagner.
Rav Mordechai Biton, merci, et Shavua Tov. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Voilà, on se dit Shavua Tov maintenant pour notre émission qui passe le samedi soir. Et avec grand plaisir, bien sûr. Rav Gay, on continue donc notre réflexion sur Chaye Sara. Et vous voulez réfléchir à un point qui est peut-être l'un des plus terribles. C'est la mort de Chaye Sara. C'est la mort de Sarah, pardon. D'ailleurs, dans une paracha qui s'appelle Chaye Sara. Donc, quel paradoxe. Elle, la femme d'Avram décède. Il faut savoir qu'Avram revient de la Akeda de son fils. Ce n'est pas un sacrifice. C'est une Akeda, mais enfin, bon, elle a fait une crise cardiaque. Elle a eu quelque chose. Elle est morte à ce moment-là. C'est quand même, pour Avram, quelle épreuve. Quel moment dans sa vie. C'est-à-dire, il arrive, il sauve son fils, il rentre à la maison, c'est sa femme qui décède. C'est terrible comme histoire, ça. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement ?
Alors voilà, d'abord je voulais préciser, donc effectivement, Sarah, elle a reçu une visite de quelqu'un qui l'a prévenu, entre guillemets, de la démarche d'Abraham. Abraham est parti un petit peu en catimini, il a pris Yitzhak et elle n'était pas au courant, et là elle apprend que c'était pour égorger son fils. Donc lorsqu'elle apprend ça, elle est niftérette, elle décède, et donc lorsque Abraham revient de cet acte absolument magnifique qui nous donne la possibilité encore aujourd'hui de survivre, puisque c'est le mérite d'Abraham, entre autres, qui nous permet de passer les journées de Rosh Hashanah de Kippour, puisqu'on en parle tout le temps de Akedat Yitzhak, et d'ailleurs au quotidien également, et bien tout simplement, la récompense, entre guillemets, de cet acte incroyable, c'est la mort de sa femme. Alors on a du mal à comprendre pourquoi à ce moment-là, pourquoi est-ce que Dieu envoie ça juste ce jour-là, au moment où Abraham mériterait tous les honneurs et de le féliciter pour son acte. Et puis là, il se retrouve à Vel, en deuil, à chercher d'ailleurs une tombe, et c'est le sujet de Yitzhak et Sarah, de négocier la tombe, de prendre des francs, de le payer très cher, mais à Rata Marpella, etc., etc. Alors en fait, ça c'est évidemment le regard superficiel des choses. Non. Si on regarde un petit peu plus, d'une façon plus approfondie, on verra dans les Sfarim, que ce soit de Chassidut, de Rochaïm Akadosh, d'autres, qui font remarquer que dans le Zohar Akadosh, on a une autre lecture des choses, et une lecture beaucoup plus optimiste et positive des choses. Alors j'explique. Il faut savoir qu'il existe, alors c'est vrai que c'est difficile à expliquer d'une façon très précise, il y a deux types d'âmes, il y a ce qu'on appelle la l'âme masculine et l'âme féminine. Alors, le féminin est plutôt celui qui reçoit, le masculin celui qui donne. Je précise que les hommes aussi ont aussi les deux aspects, on est aussi en même temps des fois mashpia, c'est-à-dire on influence, et puis des fois on reçoit d'un rave, on reçoit toutes sortes de choses de notre épouse également. Mais il y a ce qu'on appelle le zahar, celui qui est du côté masculin, et plutôt celui qui donne, alors que le côté féminin est plutôt celui qui reçoit, c'est vrai biologiquement. Et c'est comme ça en termes donc dans la Kabbalah. Et donc ici, on nous dit que Yitzhak, et c'est intéressant, ce serait intéressant d'étudier dans les mots, parce que c'est dans le cadre d'une intervention comme la mienne, c'est difficile de montrer les différents versets, de les analyser, mais regardez s'il vous plaît, l'annonce de la naissance de Yitzhak, c'est le fils de Sarah. On insiste sur le fait qu'il y aura un fils pour Sarah. Bon, c'est pas un fils de Sarah, c'est le fils de Sarah et d'Abraham. Non, 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 il y aura un fils pour Sarah, alors ça s'explique, parce que, effectivement, Abraham a déjà un fils de Hagar, mais on insiste que c'est vraiment le fils de Sarah, c'est pas le fils de la servante. Mais d'un autre côté, non, ça, on dit non, c'est pas normal, il y a trop d'insistance sur le fait qu'il soit le fils de Sarah. Effectivement, Sarah, elle ricane, on sait pas très bien comment l'expliquer, lorsqu'on annonce la naissance de Yitzhak. Alors, tout le monde s'étonne comment cette grande dame, elle doute de la naissance d'un fils. Dieu fait tellement de miracles, des gens sauvant son mari de la fournaise ardente. Est-ce qu'elle a des doutes? Ou bien en gagnant la guerre contre quatre rois, lui avec quelques personnes, ou voire même lui tout seul avec son serviteur, elle voit bien que son mari, il vit, lui et elle, enfin son mari et elle, vivent dans un autre monde, un monde surnaturel, un monde où Dieu intervient tout le temps. Simplement, ce qu'elle a entendu, c'est que c'était un fils pour Sarah, c'est-à-dire une âme féminine. Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est un personnage qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est comme ça qu'elle le comprend, qu'elle l'entend, et c'est vrai. En plus, elle a raison, elle a bien compris. Mais que se passe-t-il sur l'autel, sur le Akedat Yitzhak? C'est que lorsque Yitzhak est ligoté, eh bien, effectivement, Avraham ne va pas l'égorger, mais son âme l'a quitté. C'est en fait, il est mort, puis il s'est relevé. Ce qu'on appelle Triat Hametim, résurrection des morts, et il a perdu son âme, qui est l'âme féminine, pour retrouver maintenant une âme masculine. Donc en fait, le Yitzhak qui descend de l'autel n'est pas le même Yitzhak qui est monté sur l'autel. C'est le même corps, mais c'est pas la même âme. Alors c'est vrai que tout le monde ne sait pas ce principe, c'est écrit dans le Midrash, vous pouvez vérifier dans Yelkut Shimoni, et qui explique que la deuxième bénédiction de la Tfila, de la Amida, Atagibor, l'Olam Hashem, qui parle de Yitzhak, la première c'est Avraham, Magan Avraham, la deuxième c'est Yitzhak, la troisième c'est Yaakov, eh bien, on voit Mechaye Hametim. C'est qui dit cette bracha de Triat Hametim, la résurrection des morts? C'est Yitzhak lorsqu'il se lève après Akedat Yitzhak. Il se relève, il est mort et puis il va. Alors comment est-ce qu'il est mort? C'est très simple. Il a vu des choses incroyables. La mort, c'est de voir d'avoir accès à un niveau spirituel très très élevé, peut-être au-dessus d'une autre. Et à ce moment-là, l'âme quitte le corps. Et donc c'est ce qu'il avait. Il a eu une vision très très puissante. Il a perdu la vie. Puis après, il va retrouver une nouvelle âme, une âme qui est là, il est le fils d'Abraham. Et on voit ça très clairement dans les versets, qu'à partir de là, il devient le fils d'Abraham, alors qu'avant, il était le fils de Sarah. En fait, il est le fils d'Abraham et Sarah, mais en termes de type d'âme, il a une âme maintenant masculine, et donc il peut avoir un enfant. Il faut quand même se réaliser qu'à Akedat Yitzhak, il a déjà 37 ans. Donc c'est pas un petit jeune homme, et s'il n'est pas marié jusque-là, c'est parce que tout simplement ça ne servait à rien de le marier, il ne pouvait absolument pas avoir d'enfant, et donc c'est seulement lorsqu'il descend de l'autel que Avraham se dit « mais il va falloir que je me soucie de marier mon fils », et donc tout d'où l'idée de « Chayi Sarah » etc. Donc finalement, pourquoi est-ce que Sarah décède à ce moment-là? C'est parce qu'elle, elle avait mis au monde un fils Yitzhak, son fils, c'est-à-dire un fils qui était affilié à elle et pas tellement à son mari. C'est un fils qui a doté d'une âme féminine. Et lorsque son fils perd cette âme féminine, et donc il décède sur l'autel, au même moment, sa mère également quitte ce monde, parce que elle a terminé en fait son rôle, celui d'amener le Yitzhak jusqu'à l'âge de 37 ans, jusqu'à la Akedat Yitzhak, au monde, avec une âme bien particulière. Puis après, lorsqu'elle quitte ce monde, c'est Yitzhak qui a une nouvelle âme, et donc, avec cette nouvelle âme, il peut envisager de construire la maison d'Israël. Et c'est pour ça que Sarah ricane à un moment, c'est parce qu'elle dit, mais ça sert à quoi d'avoir un fils qui a une âme féminine, il ne pourra pas avoir d'enfant et on me promet une descendance nombreuse et le peuple juif, etc. Mais ça ne veut rien dire si on me donne un fils avec une âme féminine, ça ne sert à rien, il ne peut pas avoir d'enfant. Et elle a raison, c'est vrai qu'il ne peut pas avoir d'enfant, et que c'est une âme féminine. Mais Akedat Yitzhak va changer la donne, puisqu'il y aura un changement profond chez Yitzhak au niveau de son âme et de sa capacité à donner la vie. Et donc c'est pour ça que finalement, la mort de Sarah, même si elle est triste, elle est en même temps l'annonce de tout simplement d'un changement total de la nature et de la et de donc des perspectives de Yitzhak qui va maintenant pouvoir être un papa, pouvoir donner la vie, et donc c'est là qu'on commence la recherche d'une femme pour Yitzhak. Et d'ailleurs, si vous relisez la fin de Akedat Yitzhak, la fin de la paracha de Vayera, on nous parle là-bas de la naissance de Rivka. Donc en rentrant de Akedat Yitzhak, Avraham apprend la naissance de Rivka et il dit bon, c'est pas un hasard, voilà une naissance qui est importante à noter, parce que maintenant que mon fils peut avoir un enfant, c'est le moment justement d'aller chercher une femme, et surtout pas dans la région où j'habite, mais assez loin, dans ma famille. faut quand même noter que tous les matriarches et tous les patriarches proviennent de Terach. Hein. C'est Terach, l'ancêtre, et du côté masculin, du côté féminin, de nos Avot et Imaot. C'est absolument incroyable, c'est un mérite qu'il a, ce monsieur qui a fait Tshuva d'ailleurs également. Et donc, c'est quand même ça qui se passe. Donc, je trouvais ça intéressant de présenter cette approche des kabbalistes. Encore une fois, c'est apporté par les Sifrei Chassidut. Je crois que le Or Haim HaKadosh aussi le dit. Mais c'est important parce que finalement, c'est une autre façon de voir, on va dire, cet événement qui paraît extrêmement triste et négatif, alors qu'en fait, il annonce le changement, un changement qui va s'avérer être quelque part un sauvetage, parce qu'il va savoir, parce que Yitzhak va pouvoir devenir papa. Et c'est tellement important qu'il le soit pour donner sens à Yaakov. Et donc, c'est l'histoire qui dépend de cet événement. Mais Sarah, si elle part, c'est pas parce que elle est punie de quoi que ce soit. Au contraire, elle a terminé son travail, elle a mis au monde finalement Yitzhak, elle lui a donné 37 ans de vie avec une âme bien précise, et puis maintenant que son âme quitte cette âme, ce type d'âme quitte son corps, eh bien elle, la maman, elle quitte aussi ce monde parce qu'elle a quelque part fini son travail. Alors c'est toujours triste évidemment de perdre sa femme, parce qu'Abraham ressent une grande tristesse, mais en même temps je pense qu'il comprend encore beaucoup mieux que nous tous ce qui se passe, et il comprend que finalement ici c'est le moment de commencer à construire l'avenir du peuple juif suite à cet Akedat Yitzhak, où il a accédé lui et son fils à des niveaux spirituels absolument incroyables, et ce qui lui permet de prévoir d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire avec la naissance de Yaakov et de Esav. Et finalement il s'avère que c'est quelque part, c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps une mauvaise nouvelle qui ouvre une nouvelle page qui va... Alors moi je trouve que c'est important d'en rappeler ça, parce que notre vision des événements est très courte, et on est toujours on va dire, on prend les choses au premier degré, et des fois Hachem, lorsqu'il nous fait des choses qui nous paraissent, on va dire, négatives, extrêmement négatives, il prépare des choses très positives, et c'est ce que j'espère évidemment qui se passe en ce moment. On entend des événements très très tristes et très et qui sont tristes effectivement, mais ce qu'on espère tous, et c'est ce que le peuple judaïque nous apprend depuis toujours, c'est que ces événements terribles sont peut-être des événements qui préfigurent et qui annoncent des événements très très joyeux, très différents de ce que nous avons vu avant. Et c'est ce que nous prions vraiment du fond du cœur, nous tous, c'est que finalement on découvre que derrière toutes ces Akedat Yitzhak, parce que Akedat Yitzhak c'est la mort, c'est la disparition, et que tout cela en fait donne lieu à une rédemption, à un renouveau qui sera de nature à changer le cours du monde et à nous faire comprendre que les chemins de Shem sont toujours pour le bien, même si on a du mal à les comprendre, beaucoup de mal, mais c'est sûrement pour le bien, et un jour, on le saura, nous le comprendrons, nous le verrons, et nous prions pour que Hachem nous éclaire, nous ouvre les yeux pour nous montrer que finalement tout cela va, on espère, nous ouvrir de nouvelles perspectives qui, je l'espère, seront joyeuses pour le peuple juif.
Amen. Amen. Mais déjà, au moins dire quelque chose, et après je ferai le lien avec quelque chose que vous nous aviez enseigné déjà. On peut déjà voir que cet horrible massacre qui n'a pas de sens, qui que moi, par exemple, j'ai pas le droit, vous, c'est peut-être un peu différent d'essayer de donner un sens. Mais on voit aussi que si deux populations, la population israélienne et la population palestinienne, sont libérées de ce monstre qui s'appelle le Hamas, qui a pris tout le monde en otage avec une vision apocalyptique des choses, peut-être que voilà, ça aurait eu ça aussi. Mais moi, je ne peux pas donner de sens à rien déjà. Et en plus de ça, à des événements de cette grandeur-là, j'y arrive pas. Je pense même que je n'ai pas le droit d'ailleurs.
Alors justement, je voulais vous dire quelque chose de très positif, puisque vous verrez le Baal HaTourim. Le Baal HaTourim, c'est un commentateur de la Torah. Et je vous invite à le regarder tout à la fin, le dernier sur Chayei Sarah. Il dit quelque chose qui fait vraiment du sens, qui a du sens en cette période très difficile de l'histoire juive, c'est que c'est écrit à la fin, le dernier mot de la paracha, c'est que Nafal, il est tombé. Et de qui s'agit-il? De Ishmael. Ishmael a chuté, est tombé. Et juste après, c'est écrit Elé Toldot Avraham Yitzhak. Donc, juste après, on parle de la descendance de Avraham, c'est Yitzhak, etc. Et il dit le Valatorim, il faut le dire, hein, parce que le Valatorim, je rappelle à nos auditeurs que c'est un auteur qui a vécu au Moyen-Âge, donc dans les années 1400, donc 15e siècle, entre 13e et 15e, pardon, 14e siècle. Et 15e siècle, donc vraiment c'était pas hier, il n'y avait pas personne habité en Israël, et il dit à ce moment-là que c'est lorsque Ishmael va chuter à la fin des temps, Nafal, lorsqu'il va tomber, c'est là-dessus, c'est à ce moment-là que le Mashiach ben David apparaîtra.
Amen.
Donc oui, il y a quelque chose qui est intéressant. Nous souhaitons évidemment pas que Ishmael a fait tchouva. Oui, c'est très important aussi. Ça, c'est un point très important de la fin de la parasha. Ishmael fait tchouva. Et vous savez comment on sait qu'il a fait tchouva, Ishmael? C'est parce qu'à l'enterrement d'Abraham, il met Yitzhak avant lui. Il dit non, Yitzhak
passe devant.
Ça veut dire qu'en fait, il a du respect, il comprend la place de Yitzhak, et lui, et Ishmael fait Teshuvah. Donc moi, ce que j'espère avec vous, nous tous, hein, c'est que d'abord, évidemment, vous parlez des monstres, mais il n'y a pas, chez Ishmael, il n'y a pas Baruch HaShem que des monstres. Il y a des gens, on va dire, qui ne sont pas du tout de cet acabit, que tous, ils comprendront que l'installation des Juifs en Israël, ce n'est pas une catastrophe comme ils le pensent. Bon, certains vont faire des attentats terroristes, mais la plupart, ils pensent, même s'ils ne sont pas prêts à faire des attentats terroristes, ils pensent que c'est une catastrophe que le juif revienne en Israël. Eh bien, un jour viendra, je l'espère très très bientôt, ils accepteront notre retour, et même, ils nous donneront la priorité, en nous disant, voilà, c'est sûr, c'est la terre des juifs, et on sera très heureux de vivre avec eux, mais dans le shalom,
en voisinage.
Voilà, on espère un bon voisinage, comme d'ailleurs c'était le cas pendant longtemps dans les pays arabes, où il y avait une bonne entente entre les musulmans et les juifs. C'est dommage qu'on soit obligé de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la fin de la paracha nous fait entrevoir une période plus, on va dire, plus rose, plus belle que celle que nous vivons aujourd'hui.
Rav Guay, juste en une phrase pour rappeler un autre enseignement que vous nous avez donné. Là, maintenant, les ambassades d'Israël à travers le monde commencent à diffuser le film de 40 minutes qui a été fait par un porte-parole de Tzal, où on voit les pires atrocités de ce qu'on fait le Hamas. Je ne vais même pas prononcer les mots, d'ailleurs tout le monde sait maintenant c'est quoi les pires atrocités dont ils ont été capables durant les massacres du 7 octobre. Et vous nous aviez dit, je voudrais juste le rappeler, le souligner, qu'il ne faut pas montrer ces images. Il faut que les journalistes le voient de manière à ce qu'on ne dise pas que c'est un fake news, qu'Israël a menti. D'accord. Et d'ailleurs, moi, je ne vais pas les voir. Voilà. Vous voulez que je vous dise? J'ai été invité à une projection, j'y vais pas.
Alors moi, d'abord, je vous dis que moi aussi, on m'a pas invité à une projection, mais j'ai pas du tout l'intention d'y aller, parce que j'ai peur pour moi. Très franchement, on a vu comment même des adultes étaient en danger, des fois ne supportaient pas de voir ce qui se voit sur ce film. Mais à plus forte raison, là, c'est absolument une interdiction absolue de le montrer à des enfants ou à des gens.
Ou de les laisser regarder, parce que les montrer, ouais. Personne n'est assez fou pour dire tiens, ouais. Regarde, tu veux voir. Mais si on voit que les gosses disent qu'est-ce que tu fais, on est en train de regarder les atrocités, enfin on est en train de regarder ces salauds du Hamas, non, on ne regarde pas.
Surtout pas, ça abîme. Il faut savoir que les gens n'ont pas toujours cette connaissance, mais ça vraiment, ça détruit, ça abîme, c'est des visages, des images qui pourraient ne jamais, jamais pouvoir effacer de leur mémoire, c'est terrible. Puis franchement, même pour moi-même, j'ai peur, donc je n'irai pas voir. Et bon, j'ai bien écouté évidemment beaucoup de descriptions, ça me suffit, bon malheureusement, on a compris, et bon, pas besoin de voir, mais malheureusement, comme vous dites, c'est pas pour nous, c'est pour les médias étrangers qui ne veulent pas croire, ou qui disent que c'est des fake news, évidemment, c'est pas pour nous, c'est pas une obligation, c'est pas une mitzvah d'aller voir, ça c'est sûr,
oui.
Peut-être
ben
plutôt,
oui.
Évidemment, peut-être ne pas le voir serait meilleur.
Rav Guay, merci, je rappelle deux choses. La première, c'est que notre émission donc, qui s'achève passe maintenant le samedi soir, elle s'appelle Melave Malka, et durant tout l'hiver. On a aussi pris sur nous dans notre émission de créer du lien, donc d'appeler là maintenant, voilà, on a tout loisir pour appeler des gens qui sont seuls, qui sont loin, on a pris cette idée-là pendant cette émission, et je trouve que c'est bien.
Bravo.
Par exemple, ceux qui sont en Israël, par exemple sa maman, par exemple, pourquoi sa maman, on appelle sa mère, mais par exemple, là, moi, j'ai pas l'habitude de l'appeler samedi soir. Donne un coup de fil. J'ai raison.
Bravo.
Ah oui, c'est pas moi, c'est notre émission qui est comme ça. Et jusqu'à présent, on disait, puisque c'était le vendredi soir, n'oubliez pas d'allumer les bougies, même si d'ailleurs ceux qui sont loin de la pratique religieuse, au moins faites les bougies. Mais on peut faire plein de choses hein, le samedi soir. On peut même lire un Tehillim, on peut lire un petit texte qui nous plaît, qu'on trouve beau. On peut dire, tiens, je vais l'entendre.
L'Avdala déjà.
L'Avdala, waouh, elle est belle. L'Avdala. Allez, on prend sur nous. Voilà. Allez, on dira ça au moins jusqu'à la fin des événements. Ravgué, je vous remercie. Cette émission est à présent donc terminée. Shavuatov.
Shavuatov.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Je voudrais d'ailleurs aussi préciser que, évidemment, que les rabbanim ont enregistré l'émission vendredi. Hein, ils ne viennent pas le samedi soir. Donc, s'il y a eu des événements qu'on n'a pas signalés dans notre émission, qui n'est pas une émission d'actualité, les rabbanim enregistrent le jeudi et le vendredi, c'est évident. Et vous retrouvez une deuxième émission enregistrée d'ailleurs qui s'appelle Du côté de chez Schwartz. Et on va parler d'un festival magnifique avec Sandrine Schwartz qui est le festival Jazz and Klezmer. Shavuatov à tout le monde et excellente soirée.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari, shalom shokat shoyim.